Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corol. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors que en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous trouverez une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine, notamment des productions en français sur le Maté et sur le quartier de San Telmo. Maintenant, place à l'actualité. La responsable du Conseil de coordination de la politique sociale d'Argentine, Victoria Tolosa Paz, a annoncé les lignes directrices du projet lancé cette semaine, le plan des 1000 jours, qui consiste à accompagner la maternité et les premières années de vie d'un enfant. Nous sommes très enthousiastes car la secrétaire d'État aux affaires juridiques et techniques, Vilma Ibarra, a annoncé que le projet des 1000 premiers jours sera finalement envoyé par le président Alberto Fernández au Congrès national, a déclaré Tolosa Paz. Vilma Ibarra a confirmé cette semaine que, dans le courant de ce mois, le pouvoir exécutif enverra au Parlement à la fois le projet de loi pour la légalisation de l'avortement et celui qui crée le plan 1000 jours qui seront traités lors de sessions extraordinaires. Tolosa Paz a expliqué que le plan est un projet et un programme qui a été exécuté depuis longtemps par le gouverneur de la province de San Juan et qui rend compte de l'énorme résultat que l'on peut obtenir dans cette population de femmes enceintes dans les premières années de vie de l'enfant. Et parlant d'un nouveau projet de loi sur l'interruption volontaire de la grossesse qui va être débattu cette année parlementaire, nous rappelons qu'il y a 2 ans, le Sénat argentin avait rejeté la légalisation de l'avortement. Voici comment l'informait alors France 24.
Bonsoir Julie.
Bonsoir Anthony.
Et vous revenez sur ce rejet par le Sénat argentin de la légalisation de l'avortement. On l'a vu, hein, le pays était scindé en 2 camps. C'est la même chose sur les réseaux sociaux.
Oui, alors d'un côté, on a les pro-légalisation de l'avortement qui sont déçus, bien sûr, mais pas pour autant abattus. En tout cas, c'est le message qu'ils cherchent à faire passer sur les réseaux sociaux, comme par exemple le compte de campagne nationale pour le droit à l'avortement, sur lequel on reconnaît, hein, le foulard vert porté par les militants dans la rue et le petit cœur vert. Affiché sur les réseaux sociaux. Nous sommes là comme nous le sommes depuis 13 ans, dit cette publication. Un message de persévérance et d'espoir donc, partagé aussi par 7 députés argentines. Je vous la cite, ce n'est que le début. Ils ne pourront pas arrêter la marée féministe qui est venue pour changer l'Argentine. Plutôt bientôt que tard, ce sera la loi. Ce sera la loi, será ley en espagnol. C'était justement le hashtag utilisé par les partisans de la légalisation de l'IVG, un slogan aujourd'hui détourné par l'autre camp, celui des opposants à l'avortement. No es ley, ce n'est pas la loi, c'est donc le hashtag utilisé par beaucoup d'entre eux sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et comme cette utilisatrice de Twitter par exemple qui partage cette photo de bébé avec la légende « Merci Argentine de me défendre ». Et les militants anti-avortement sont nombreux à partager ce type d'image. « Sois tranquille bébé, l'Argentine prend soin de toi ». Publie donc Mariana Rodriguez Varela, une militante anti-avortement célèbre et fervente catholique. Et justement, cette influence en fait de l'Église catholique sur le référendum et sur le débat public est très critiquée par les pro-légalisation. Le Opus Dei, quel facho tué, était d'ailleurs l'un des chants des féministes, nous rappelle le quotidien Libération, quotidien qui souligne que le prochain combat de ces activistes sera peut-être justement cette séparation de l'Église et de l'État en Argentine. La seule manière de se libérer de ces chaînes, en quelque sorte, c'est aussi ce que semble penser le dessinateur Plantu, qui représente l'Église catholique comme un boulet que traînent les femmes argentines, un boulet à leurs pieds. Des femmes contraintes à regarder vers le passé, semble aussi nous dire ce dessin. Et ceux qui ont interdit, en fait, qui n'ont pas permis, en tout cas, cette légalisation de l'avortement, eux aussi appartiennent au passé, nous disent plusieurs caricaturistes. Celui-ci, par exemple, représente les sénateurs en homme préhistorique. Cet internaute, quant à lui, a plutôt choisi de les comparer à des dinosaures. Anthony, vous reconnaissez peut-être le symbole
de Jurassic Park,
de Steven Spielberg, exactement. Et pourtant, cette idée présentée comme rétrograde, cette interdiction de l'avortement qui serait rétrograde selon les partisans de l'IVG, de l'autorisation de l'IVG, est pourtant une réalité qui appartient bien au présent, nous rappellent nos confrères du service infographie du Parisien. Grâce à cette carte, on y voit que, en fait, l'avortement reste interdit ou très limité dans de très nombreux pays du monde. Et vous le voyez, il apparaît une ligne assez claire, en fait, comme si la planète, elle aussi, était scindée en deux. D'un côté, le nord, où l'avortement est largement autorisé, et de l'autre, le sud, où il est largement interdit.
La francophonie en musique présente Serge Reggiani.
C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien, et si tu n'es pas morte, ou au moins sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi ta porte, io non ne posso proprio più. Se ti sei aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù.
Serge Reggiani est né en Italie à Reggio Emilia, près de Parme, le 2 mai 1922. En novembre 1930, la famille fuit le pays natal sous le régime de Mussolini et se réfugie en France, en Normandie, puis à Paris.
J'ai connu des dames, oui, j'ai. Je joue bien mal aux femmes, tu le sais. Depuis que j'ai des chercheurs d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi ta porte, bien non ne posso proprio più. Se tu sais, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'Italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'aies pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien, et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi une porte, io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez une porte, io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta, dirò com'è stato laggiù. Ouvrez une porte, io non ne... E che volete?
Le jeune Serge rêve d'une vie de saltimbanque. Il lui vient l'idée d'écrire et de monter un numéro avec un ami, avec qui il commence à se produire dans les bistrots. Serge chante dans les noces et banquets. Il est ensuite figurant à Mogador et au Châtelet.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux. On va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. Mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment. Une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir. Ne t'en va pas. Ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir, il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois. Je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires. Mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimaient et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non. Ne pleure pas.
En 1937, il est accepté au Conservatoire des Arts Cinématographiques et sort en fin d'année avec le premier prix de comédie. Il se lance sur scène et joue dans Britannicus, où il donne la réplique à Jean Marais, avant de monter Les Parents Terribles de Jean Cocteau. Puis il multiplie les rôles au cinéma, notamment en 1946 dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carnet, et en 1952 avec Simone Signoret dans Casque d'or de Jacques Becker.
Bonjour madame.
Bonjour.
Ah, oh, bah vous avez fait du café, c'est gentil ça. Seulement, faudra peut-être pas le verser tout de suite parce qu'elle dort encore. Hein.
À cette heure-ci, il y a du café. Tiens, va donc lui porter tant qu'il est chaud. C'est bête. Moi, je reste là. Embrasse-moi, mon père.
Plusieurs années plus tard, à la mort de Simone Signoret en 1985, Serge Reggiani diffuse une lettre à Simone.
À Simone Signoret. Simone, très chère Simone, oserais-je t'avouer que je suis heureux et fier de t'avoir eu pour ami et pour partenaire. Notre premier film commun, tu l'as sans doute oublié. Nous sommes à peine croisés sur le tournage. Dans Le Voyageur de la Toussaint de Louis d'Aquin, je devais interpréter le rôle principal, mais c'est Jean de Sailly qui fut finalement choisi, et j'ai dû me contenter du rôle du petit voyou. Toi, mêlée à la foule des figurants, qui t'appelait encore Simone Gaminquer. Comment aurions-nous deviné alors nos vies, nos futures rencontres devant la caméra et notre amitié au soleil de la Colombe d'Or? Il eut enfin Casque d'Or de Jacques Becker. Comme l'a écrit François Truffaut, le film racontait un petit homme et une grande dame, un petit chat de gouttière tout en air et une belle plante carnivore qui ne crache pas sur le fromage. Le producteur ne voulait pas de moi. Il cherchait pour jouer le rôle de mandat un jeune premier, ce que je n'ai jamais été. Mon aspect taciturne et râblé les effrayait. Jacques Becker et toi avaient tant insisté qu'ils ont fini par céder. Je ne t'en remercierai jamais assez. Si j'ai une petite chance de laisser une trace dans l'histoire du cinéma, c'est à ce rôle que je le dois. Un jury n'a-t-il pas désigné Casque d'Or, troisième meilleur film français de l'histoire, après Les Enfants du Paradis et Le Jour se lève? Quoi qu'aient pu penser et dire nombre de gens, il n'y a jamais rien eu entre toi et moi, si ce n'est une très franche et très pure amitié. Très chère Simone, je pense souvent à toi. Je pense à toi quand j'entre dans une librairie et que je vois une photo de Georges Semprun avec sa crinière blanche et son beau visage buriné, lui était un peu votre maître à penser. Je pense à toi quand je regarde un film la nuit et que ton visage apparaît à l'écran. Ton rire était franc, ouvert, gorgé de vie et de soleil, une vie qui n'a pas toujours été tendre avec toi. Et si l'actrice a grandi avec l'âge, la femme, au fil des années, est devenue casque d'argent, casque de platine, Simone, combien je t'ai aimé. Ton mandat.
Au ciné de mon quartier, on peut voir depuis avant-hier une histoire en blanc et noir. Le film était de Jacques Becker. Avec la fille la plus belle, dans un café français, un menuisier dansait, mais rangeait les violoncelles. Elle était l'idée fixe d'un dénommé et Félix, dont les gilets fleuris faisaient peur dans Paris. Le menuisier dansait et la fille l'aimait, et c'était pour la vie. Elle s'appelait Marie, mais à l'heure où Paris dort, un voyou qui trépasse dans le fond d'une impasse, fait accuser de sa mort. L'ouvrier qui enlace la fille au casque d'or, tous les chats étaient gris et les lumières éteintes, mais Félix a tout dit en buvant son absinthe. Alors Marie, en larmes, voit venir les gendarmes. Au ciné de mon quartier, on peut voir depuis avant-hier comment meurt en blanc et noir un homme qui a jamais vu la mer. Quand tombe la guillotine sur le coup de mandat, il s'appelait mandat. C'est l'amour qu'on assassine. Et la balle se repasse et le film se termine. Un menuisier dansait et la fille l'aimait. Et cette valse-là, une femme dans mes bras, la dansait comme personne. Et c'était toi, Simone.
Après une longue absence sur les écrans, en 1963, Reggiani s'exprime à la télé.
Beaucoup disent qu'il est le premier acteur français de ce temps. Malgré des succès comme Le Carrefour des Enfants Perdus, Les Amants de Vérone, Manon, Casque d'Or, Serge Reggiani vient pratiquement de connaître 10 années d'exil professionnel. C'était, on peut bien le dire, incompréhensible.
Il n'y avait pas un metteur en scène, il n'y avait pas un auteur qui me disait « Ah, si je pouvais avoir Serge Reggiani pour tel rôle », mais il ne pouvait plus. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait plus ?
Il ne pouvait plus parce qu'une certaine catégorie de distributeurs et de producteurs ont décidé, pour des raisons que j'ignore, et que les chiffres eux-mêmes ignorent d'ailleurs, ont décidé que je n'étais plus commercial et que le public ne s'intéressait plus à moi.
Mais en 10 ans, vous avez eu le temps de réfléchir aux raisons profondes.
Je dis bien que j'ai eu le temps de réfléchir aux raisons profondes, effectivement, je le dis, mais je n'ai pas dit non plus que j'ai trouvé vraiment les raisons profondes de ce trou, de ce silence. Si toutefois je dis qu'on a, en fin de compte, la carrière qu'on mérite, c'est parce que je ne crois pas à la chance, déjà, pour commencer, dans ce métier particulier. Mais enfin, il est vrai aussi que j'ai fait de fort mauvais films, que je savais être, à la lecture, au départ, de fort mauvais films. Je n'ai jamais été réellement, et j'en parle d'autant plus à l'aise maintenant que les choses vont de nouveau mieux et même fort bien, je n'ai jamais été ni triste ni amer de cet état d'esprit, parce que je savais, de cet état de choses, parce que je savais qu'il était très probablement et très certainement inhérent à moi, oui. Et non pas aux autres.
Donc aujourd'hui, Serge Reggiani, les choses ont beaucoup changé. Tout repart. À cause de quoi, à votre avis ?
J'imagine que le silence, le demi-silence dans lequel j'ai été plongé, plus ou moins malgré moi, pendant quelques années, m'a en fin de compte servi. Il est exact que, je ne veux pas faire de nom, mais je suis parmi les comédiens de ma génération, de ceux qu'on redécouvre parce que je suis peut-être de ceux dont on est le moins fatigué. Et très probablement à cause de ce silence, enfin, ce demi-silence. Je suppose que c'est à cause de ça. À cause de ça aussi, et grâce à ça, en fin de compte, un metteur en scène, Jean-Pierre Melville, a beaucoup insisté auprès de producteurs pour que, dans un film qui s'appelle Le Doulos, j'ai à jouer un rôle très important, aussi important que le rôle de Jean-Paul Belmondo, qui, entre parenthèses, est parmi les jeunes celui que je préfère.
À quoi voyez-vous que les choses aient changé ? Les gens ne vous parlent plus de la même manière ?
D'une part, oui, les gens ne me parlent plus de la même façon. C'est-à-dire que les gens ne m'obligent pas à m'attrister sur moi-même. C'est-à-dire que souvent, il y a quelque temps encore, les gens... Et je ne pouvais pas faire autrement que de réagir gaiement à ce genre de manifestation, par ailleurs extrêmement amicale. On disait « Comment vas-tu, mon vieux ?» Avec, comme si j'avais perdu vraiment des choses très graves.
C'est-à-dire, étant persuadé que ça ne va pas très bien, ils finissent par ne même plus vous demander comment vous allez, de peur de votre réponse.
Oui, alors que vraiment, ça a toujours été vraiment très très bien. Et maintenant, pendant ces années de semi-silence, les choses ont été pour moi très bien enrichissantes et j'étais tranquille. Vous me parliez tout à l'heure d'inquiétude. Qui ne serait pas inquiet à l'époque à laquelle nous vivons ? Mais je n'étais pas inquiet quant à mon métier. Mon métier, je le connais, peut-être sans plus, mais je le connais. Je sais qu'un jour ou l'autre, forcément, les comptes retournent, les comptes reviennent. Et les comptes sont revenus.
En 1964, Reggiani se lance dans la chanson avec un album consacré à Boris Vian. Et la même année, il fait la première partie de Barbara à Bobino, qui le prend sous son aile et lance véritablement sa carrière.
Si vous la rencontrez, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs. Ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers,
trop souvent, mais trop mal donné. Le timbre, la phare, malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure.
Le timbre mélancolique de l'acteur séduit le public français. Dès lors, la carrière de Reggiani est définitivement lancée. Il continue en parallèle de tourner pour le cinéma et joue sous la direction des plus grands, Melville, Scola ou Lelouch.
On arrive à la cinquantaine, moitié sage, moitié fou. Le cul assis entre deux chaises a tenté d'enjoindre les bouts. Sur la route de la chimère, on se retrouve souvent un jour pour faire le compte de ces guerres, des petites joies, des grands amours. Et c'est tout. On arrive à la cinquantaine, moitié figue, moitié raisin. Le cœur absous de toute haine, le cœur absous de tout chagrin. On a troqué sa destinée contre des hauts, contre des bas. Rêves vendus à la criée pour faire le vendredi gras. Et c'est tout. On arrive à la cinquantaine, moitié déçu, moitié content. Un quart de joie, un quart de peine et l'autre moitié aux enfants. On se souvient de sa jeunesse comme d'un joyeux chapardage. Au seuil de la prime vieillesse, on pose un instant ses bagages et c'est tout. Et on repart vers la centaine, un demi-siècle dans les reins. Avec tout juste la moyenne à notre devoir de terrien. Comme elle est lointaine, la rive où l'on se couchera un jour. Il reste tant et tant à vivre qu'on pourra faire un long détour, si tu veux.
Mon amour. D'où Doué de multiples talents, Serge est également écrivain et peintre. Il meurt le 23 juillet 2004 à l'âge de 82 ans.
Notre Père qui es aux cieux, restez-y, et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie.
Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand j'aurai du verre sur mes os, peut-être qu'on croira que je ricane, mais ça sera une impression fausse, car il me manquera mon élément plastique, plastique, tic, tic, qu'auront bouffé les rats, ma paire de bidules, mes mollets, mes rotules, mes cuisses, mon cul, sur quoi je m'asseyoie, mes cheveux, mes fistules, mes jolis yeux cérules, mes couvre-mandibules, dont je vous pour les choix, mon nez considérable, mon cœur, mon foie, mon rable, tous ces riens admirables qui m'ont fait apprécier des duquets, des duchesses, des papesses, des abbés, des ânesses et des gens du métier. Et puis je n'aurai plus ce phosphore un peu mou, cerveau qui me servit à me prévoir sans vie. Les os le crâne venteux, ah comme j'ai mal de devenir.